Bon, alors Sébastien, tu exposes dans la chapelle qui s'appelle La Chapelle.
La Chapelle.
De l'Expo, qui est le nouveau musée.
Ouais, alors l'Expo, c'est l'autre salle. Là. La Chapelle, c'est la Chapelle de l'Art Contemporain de la ville de Pithiviers. Voilà, si on veut être
précis. Chapelle de l'Art Contemporain. C'est un très beau lieu. Hein.
Ouais, c'est un très beau lieu. Et en fait, moi j'ai souhaité avoir une intervention minimale dans le lieu qui vise à dialoguer avec les différents paramètres qui sont le lieu, qui est en fait ce lieu. Donc en fait, on est dans une chapelle qui fait partie d'un ensemble de bâtiments qui était le musée de Pithiviers, qui est fermé. En fait, les collections ne sont plus visibles au public. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens de Pithiviers qui regrettent que ce musée soit fermé. Moi, j'ai eu la chance, quand on m'a proposé le projet, de faire un tour des réserves du musée, de voir toutes les collections, tous les objets. Et puis, je suis tombé sur cette sculpture de Neptune, très abîmée, qui est en fait dans les collections du musée depuis sa création, qui a priori, enfin qui est une terre cuite, qui représente Neptune en toge, avec à ses pieds un dauphin. On sait que cette sculpture, elle a été sur une place publique à Pithiviers, près d'une pompe à eau ou d'une fontaine. On ne connaît pas l'origine de cette pièce, ni d'où elle vient. C'est assez récent, c'est pas un antique. Hein. C'est à l'antique, mais c'est pas un antique.
Ouais.
Et elle est complètement défigurée par le temps. Elle a toute la partie inférieure de son visage, son nez, sa bouche et sa barbe qui s'est écroulée. Et puis il reste juste un peu.
Ça t'a parlé quand t'as vu ça?
Ah bah oui, ça m'a parlé quand j'ai vu ça. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'elle soit présente dans l'expo, parce que l'idée, c'était de me dire, voilà, je vais partir de cette pièce du musée, et puis je vais m'installer dans la chapelle et travailler avec les composants. Donc il y a cette statue, il y a cette fresque qui est là, qui est très, très présente, très prégnante. Et puis il y a cette collection de pots à pharmacie, qui date en fait de la période au Tel Dieu en fait du bâtiment. Donc on a une collection de pots à pharmacie en faïence avec des décors bleus où sont inscrits les noms des plantes médicinales qui étaient contenues à l'intérieur des pots.
D'accord. Donc le point de départ, c'est Neptune. Tout s'est joué sur Neptune.
Bah, sur Neptune, la fresque et les pots à pharmacie.
Voilà, trois choses qui rentrent en
moi, c'était, si tu veux, je ne pouvais pas faire une expo en faisant abstraction de tout ça. Parce que c'est dans le lieu.
Bah, c'est quand même vachement chargé.
C'est vachement chargé, ça fait partie du truc. Donc le Neptune, en fait, j'ai voulu l'exposer dans un dispositif. Donc là, ça s'appelle Neptune Sunset. Voilà.
Coucher de soleil derrière Neptune.
Voilà. Et donc derrière Neptune, il y a une espèce de coucher de soleil qui est simplement signifié, qui est un processus que j'avais déjà utilisé pour ma dernière expo à Pantin, qui consiste à un empilement de tulle de couleurs différentes, où par-dessus il y a une moustiquaire qui est posée, donc ça fait une espèce de tramé. Et ce que j'avais observé à mon expo à Pantin, qui était sur la question du panorama, donc qui était déjà dans une salle circulaire et où en fait ce dispositif en tulle venait se décoller un peu des murs pour donner l'illusion d'une peinture murale, c'est qu'en fait comme ça joue optiquement sur une trame et quelque chose qui est très flouté, quand il y a un objet qui est posé au devant, la matérialité de l'objet change. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la matière de l'objet est vachement plus lisible parce que le fond est flou. Un peu comme ce qui se passe en photo quand on travaille avec une profondeur de champ qui est très courte.
Oui.
Et que voilà, donc du coup, c'était la question de mettre en scène la statue et puis de créer un flou.
La rendre plus visible du coup.
La rendre plus visible et la rendre dans un...
Qu'elle se détache encore plus dans sa force.
Oui, parce qu'elle a une force plastique en fait avec cette usure et cette patine qui est très très belle.
Oui, c'est vrai.
Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'est de mettre la photo que j'ai faite le jour où j'ai visité les réserves, la photo que j'ai faite de ce Neptune. Parce que du coup, voilà, je reparle de la fresque. Là, c'est le lien avec la fresque. La fresque, il y a un texte qui est écrit en bas et qui parle de l'artiste et de la vision du monde par l'artiste. Et du coup, je trouvais intéressant de montrer la vision que j'avais de la sculpture, donc une photographie que j'ai faite de cette sculpture dans les réserves, qui est très différente en fait en soi de la sculpture.
Complètement.
On ne l'aperçoit pas du tout pareil.
Ouais.
Et je crois que c'est aussi cette question-là de... On a tous un musée imaginaire dans notre tête, avec des œuvres, avec des choses qui nous touchent, avec des,
voilà,
des choses
très mélancoliques,
des moteurs. Ouais,
hein?
Voilà. Oui, elle a l'air très mélancolique, hein? Et puis en même temps, elle fait comme un masque, et puis la partie qui est manquante, en fait, il y a une espèce de, à l'endroit de la bouche, il y a une espèce de trait horizontal, qui est comme une amorce de denture ou de fosse buccale, qui est assez violent, et puis il y a ce visage au-dessus qui est très doux.
On pourrait presque croire aussi que c'est des lèvres très serrées, peut-être on pourrait presque...
Ouais, ou c'est un côté zombie aussi, tu vois, il y a un truc assez bizarre, des décharnements.
Ouais.
Et du coup, moi, c'est ça qui m'intéressait dans cette sculpture. Donc, je voulais confronter la sculpture aussi à l'image de la sculpture que moi j'avais. Je pense pas, par avoir cette idée de...
Elle est belle, cette photo.
Du monde de l'artiste et tout ça.
Très belle.
Et donc, ça, c'est le dispositif central. Après, près de la fresque, il y a un grand socle vertical qui est dressé, qui est un socle qui est en miroir. En fait, qui reflète une partie du lieu,
ouais.
Qui vise un peu à disparaître en fait, parce que le miroir ça réfléchit, mais en même temps ça a une capacité à disparaître un peu. Si j'avais mis un socle blanc ou dans une autre matière, il aurait été présent. Là, ils se font dans le truc,
ouais.
Et du coup, au-dessus, il y a une céramique qui est en fait un coussin. Un coussin en céramique sur lequel repose un crâne. Alors le coussin est en céramique émaillé en blanc. Et le crâne est en céramique aussi, en faïence, avec un émail métallescent, très brillant. Et sur ce crâne, en fait, il y a un masque qui est en fait l'empreinte quelque part du crâne. Alors il est plus crâne, il n'est pas tout à fait visage. Il est dans un espèce d'entre-deux qui lui donne une douceur et un mystère. C'est une vanité présente mais qui n'est pas encore tout à fait là. Et puis ce masque tient sur le crâne avec un ruban. Et en fait, je l'ai placé là aussi par rapport à la fresque. Parce que quand on arrive de loin, il paraît presque en suspension, un peu tourné vers le haut, comme si le métallescent, ça prend très bien la lumière. Donc voilà, il y avait un espèce de...
C'est vachement beau.
De vanité, plus ou moins là.
Oui, c'est très métallique.
Ça, on se voit dedans aussi, on revoit le...
Quand tu dis métallescent, ça veut dire qu'il y a du métal dedans? Ou c'est l'aspect
métallique? En fait, c'est métallescent, et puis là, c'est un émail qui est plombeux. Donc c'est des émaux qu'on n'utilise plus pour les trucs alimentaires parce que c'est des particules de plomb.
Ah ouais.
C'est des émaux toxiques avec lesquels on arrive à avoir des espèces d'aspects un peu métalliques comme
c'est
ça.
C'est vachement beau.
Qui sont assez beaux. Et puis pareil, toujours il y a une question du flou. Tu vois, parce qu'il y a le coussin qui est très net, on a toute la trame du tissu qui est imprimé. Et puis on a quelque chose qui devient très doux, émouvant et qui en fait est toujours en mouvement. Voilà. Alors que c'est un crâne.
De par les reflets.
De par les reflets, il y a toujours un mouvement.
Et c'est en train de s'oxyder ou c'est comme ça normal?
C'est comme ça normal. En fait, après ça dépend. Si je le nettoie mal et qu'il y a des traces d'eau, ça fait des taches, mais ça fait aussi partie du jeu de l'émail, quoi. Il y a une protection par rapport à l'étanchéité, donc ça lui donne une espèce de patine, mais c'est toujours un peu étrange en fait comme matière.
Mm-hmm.
Après, je pourrais m'amuser à le faire briller, mais c'est pas trop le but. Voilà,
ouais, c'est beau.
Et puis il y a une dernière pièce qui est en fait la pièce quand on arrive, qui est une table comme une console. Donc cette console, elle est faite avec des piliers, des formes géométriques qui sont en grès, qui sont des formes moulées, estampées vraiment sauvagement dans des moules, donc qui ont un espèce d'aspect de pierre usée, rongée, un peu comme la sculpture du musée. En fait, il y a une espèce d'usure temporelle, un effet d'usure temporelle qui est voulu.
Faux vieux, quoi.
Du vrai faux vieux, et puis en même temps du brutal. Moi, c'était surtout la question du la brutalité de la matière qui était dessus. Est-ce que dessus sont disposés des objets qui, eux, ne sont pas brutales? Donc on va partir du bas. En bas, il y a une forme de cloche qui sont les formes que je travaille habituellement, enfin en ce moment, je dirais, depuis quelques temps. Donc c'est des formes de comme les globes en verre dans lesquels on met des choses précieuses. Donc ça, c'est une forme qui est moulée. Là, il y a un tirage en porcelaine. Ce tirage en porcelaine est découpé dans le frais, donc ça, il a des espèces d'écailles à la base. Et puis par-dessus, il y a un dessin de crâne. Donc c'est un dessin qui se déploie sur un volume circulaire et qui essaie de retrouver... En fait, ma technique de dessin sur ces formes-là, c'est de me dire... Quand le volume apparaît, je m'arrête. Je vais pas vers un truc d'hyper-réalisme, mais si ça serait de la virtuosité ou un truc comme ça. C'est juste un travail de dessin.
C'est réussi, là. Hein.
Par le noir, je creuse. Et c'est comme la sculpture, mais c'est du dessin. Ah.
Tu fais croire que tu creuses et tu creuses pas.
Voilà.
C'est ça.
Et ça m'intéressait de mettre ça, cette pièce-là, parce qu'effectivement, derrière, on a les vitrines avec ses pots à pharmacie. Donc ces pots curatifs qui sont des formes où il y a des décors posés dessus. Donc là, on a une autre forme avec un décor posé dessus qui nous parle d'autre chose, mais qui est en lien avec ce qui se passe dans les vitrines. Et puis dessus, on a une espèce de couronne, je dirais, qui est en fait une couronne de bras. Donc c'est deux mains qui se joignent et qui sont... un peu comme des mains qui offrent.
C'est toi qui l'as fait, ça?
Ouais, des mains qui donnent.
C'est en terre?
C'est en faïence, rouge.
Ouais.
En terre cuite rouge. Et à l'intérieur de ces deux mains qui donnent, il y a disposé un ensemble de petites têtes d'anges. Alors, il faut dire que dans la fresque, derrière nous, si on regarde bien, il y a un ange avec une corbeille qui déverse des fleurs, qui fait ce truc de donner. En haut, il y en a deux avec des couronnes florales, et puis il y a plein de petites têtes d'anges planquées dans les nuages. Et en fait, cette pièce, je l'ai faite parce qu'on m'a donné ces têtes d'anges, qui sont des moulages.
Des angelots, non?
Des angelots, hein, ouais. Oui, des angelots, des poutis.
Hein. Des poutis?
Des poutis.
Je connais pas ce terme-là, poutis.
Bah, c'est les petits machins qui volent, là.
Ah, c'est des poutis?
Ouais, les bébés tout gras, c'est des poutis.
Ah, je connaissais pas.
Un poutou, des poutis.
Je connais poutine, mais...
Non, oui, c'est pas pareil. C'est pas elles-mêmes, ils volent pas. Et donc, ces petites têtes d'angelots, ils sont en plâtre, ils sont absolument tous rongés. Et... en piteux état, parce que tout simplement ils étaient et constituaient une frise décorative à l'extérieur d'un monument historique à Orléans. Et lors du ravalement, en fait, ils ont fait tomber les têtes d'anges pour refaire les choses sculptées, enfin pour voir ce qu'il y avait en dessous. Et ils sont aperçus que c'était des poupons en celluloïde des années 70 qu'un maçon avait moulé pour reconstituer la frise. En fait, donc c'est quelque chose qui n'a absolument aucune valeur.
C'est du plastoc?
Non, c'est à la base, c'est un poupon en plastoc.
Super. Et alors, de la même manière que ça, ça évoque, on va dire, un faux antique.
Ouais.
Là, tu joues sur le marbre, le faux marbre.
C'est un
polystyrène.
Oui, c'est un polystyrène noir qui est un peu d'aspect pierreux, qui constitue en fait les plateaux de la table et de la console. C'est un peu du top, mais j'aime bien jouer moi dans mon travail sur les contrastes de matière et de matériaux, parce qu'effectivement, même si je fais beaucoup de terre et beaucoup de céramique dans mes dernières pièces, je viens pas de là. Je viens de d'autres matières et d'autres matériaux et d'autres trucs. Donc moi, je continue toujours à me poser des questions sur les matières et les matériaux. Puis là, le polystyrène, il a cette faculté, à l'inverse du marbre, d'être aspirant. Enfin, il y a un côté silencieux, en fait, du polystyrène qui il vient atomiser les choses. Donc,
il étouffe.
Donc du coup, c'est un peu, tu vois, la question de la sculpture antique avec son voile qui vient la rematérialiser, là t'as un truc qui vient calmer, étouffer, qui remet les pièces en valeur. Enfin, c'est toujours des espèces de contrastes entre les matériaux, les choix des matériaux qui font que sur la perception, mais ça c'est ouais, le socle miroir pour le crâne qui fait que ça disparaît, que c'est au-dessus qui marche. Voilà, c'est des questions de contraste interne à chacune des formes qui font que les choses résonnent.
Le petit côté noir comme ça en bas là. Ça...
Mais c'est ce que je disais, c'est ce qui est incisé dans le frais. Si on s'accroupit, qu'on va voir de plus près. En fait, ça fait plein de petites.
Dis donc, oui, voilà. Bah oui, maintenant je m'approche, je vois.
C'est comme une espèce de plumage, relief ou des écailles.
Ah oui.
Quelque chose de cet ordre.
Parce que là, de loin, je ne voyais pas que ça en relief.
Bah ouais, voilà, mais c'est parce qu'aussi au-dessus, t'as quelque chose de très très lisse. De très très lisse, donc t'as un truc vraiment qui est de la porcelaine, très lisse avec un émail brillant et tout ça. Et puis après, t'as cette espèce de chose grumeuse, un peu vibrante. Mais qui est intéressante par rapport au dessin.
Donc là, c'est dans le frais, donc c'est pas sec. Tu grattes
En fait, juste quand je viens de démouler la porcelaine, elle est encore molle. Mais elle se tient. Enfin, je démoule quand c'est assez ferme pour que ça se tienne et pas que ça s'écroule. Et puis après, je viens inciser avec un outil pour dégager ces espèces de trucs un par un. Voilà, je fais tout. Bon, j'étais un peu sage au début, puis un peu plus violent à la fin, parce que c'était un peu super énervant. Et puis, je l'ai fait sur plusieurs jours, donc il y a des trucs qui ont cassé, mais je voulais un truc brutal, justement, parce que je savais que j'allais avoir quelque chose de très lisse au-dessus. Tu vois, toujours dans ces idées.
Le contraste. Ouais, d'accord.
Et puis, c'est le premier que je fais comme ça, parce que d'habitude, j'ai toujours bossé sur des cloches lisses, mais comme elles s'agencent avec d'autres formes, voilà, les autres formes pouvaient jouer le contraste. Là, c'était vraiment une pièce que je projetais comme un objet tout seul. Donc, il fallait qu'elle ait cette espèce de dualité pour que ça...
L'antagonisme.
Ouais, pour que ça fonctionne pour moi, par rapport à ce que je recherche.
Ah, ça fonctionne bien.
Voilà.